Mathieu Donde, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes à la veille de la diffusion sur notre superbe chaîne nationale de la 13-2. À quel moment avez-vous décidé de reprendre votre crayon avec vos acolytes Stéphane Mermans et Benjamin Daous pour nous donner cette suite? Si suite il y a.
Ah oui, c'est une bonne question. Non, on avait en fait avec Ben et Steph, on avait une idée de saison 2. Mais la saison 1, on a fait ça avec peu de moyens, etc. Et moi, je pensais que ça allait mettre le temps.
2,5 millions, quand même, c'est pas mal.
C'est pas mal, mais quand on divise par épisode, ça fait 250 000 euros l'épisode. 250 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais il faut savoir qu'une série française équivalente est à 1 million, donc on a le quart. Donc ça donne une idée, quoi, que les séries danoises, suédoises et tout ça, dont on a beaucoup parlé. Bon, je parle pas des États-Unis où ils font directement ça avec 10 millions, voire 17 millions pour certaines grosses séries. Mais si on compare ce qui est comparable, c'est une série danoise ou quoi, ils tournent autour de 800 000 à 1 million. Oui, ça c'est même un peu plus. Oui, ça tourne autour du million. Quoi. Oui, c'est ça. Et cette série-là, précisément, je connais pas, mais je sais que Borgen, par exemple, c'est ça, c'est autour du million. Et du coup, ça donne une idée. Et en fait, l'argent, c'est que souvent, quand on parle d'argent, on imagine que c'est pour faire des explosions de voitures. Enfin, on pense à des scènes qui coûtent très cher. Mais l'argent, dans le cinéma, c'est des salaires. C'est qu'il y a vite 50 personnes. Et que quand on 50 personnes et qu'on loge 50 personnes à l'hôtel, qu'on nourrit 50 personnes et qu'on paye 50 personnes, chaque jour, c'est une somme qu'on peut imaginer. Quoi. Et du coup... avoir un petit peu plus d'argent permet d'avoir du temps en plus et permet simplement que les gens ne rabotent pas leur salaire. Quoi. Et si je raconte tout ça, c'est bien sûr pour dire que est-ce qu'on avait une idée de saison 2? Oui. Est-ce qu'on pensait la faire directement? Non. Mais quand on a vu le succès et l'engouement qui a suivi... Au
40 pays quand même qui achètent, c'est énorme.
Là, c'est... Ça, c'est carrément... Mais ça, c'était la cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, moi, quand je parle de l'engouement, je parle même de l'engouement qu'il y a eu en Belgique au moment de la RTBF, de voir que les gens suivaient et adhéraient. Mais pour un créateur, c'est un plaisir énorme, pour un scénariste, de voir que les histoires sont vues. C'était vraiment un grand plaisir. Donc nous, on a vécu cette rencontre avec le public avec beaucoup de bonheur. Et là, ça donne envie d'y aller. Quoi.
Alors l'écriture à trois, ça se passe comment? Maintenant, je suppose que vous êtes rodé, mais ça a été facile à mettre en place.
Mais on a pris beaucoup de temps avec Ben et Steph. Quand on a écrit la saison 1, on a pris quasiment autant de temps à écrire la saison 1 qu'à trouver la méthode. Et donc au départ, moi j'avais écrit des bandes dessinées avec Benjamin Daoust, Shrim, qui était publié chez Dargo, et j'avais écrit mes films précédents avec Stéphane. Donc j'avais l'habitude de travailler en binôme avec eux. C'était chaque fois des projets à moi sur lesquels ils venaient collaborer. Qui sont devenus des projets à nous, évidemment. Travailler à trois, on n'avait jamais fait. Donc au départ, on s'est lancé là-dedans un petit peu en disant, bon, démocratie, on va un peu voir. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait faire comme les Américains font, c'est-à-dire désigner un showrunner, c'est moi qui ai été désigné pour cette tâche. Et le showrunner, c'est quoi? C'est la personne qui va trancher. Et pour faire avancer, parce que sinon on peut discuter des jours de savoir, tiens, la couleur de la voiture du héros, il y en a qui, si Ben dit rouge, que Steph dit vert et que je dis jaune, on peut discuter des jours de ça, et on peut surtout revenir sans cesse avec la même question, ce qui freine surtout la discussion. Du coup, un showrunner, celui qui tranche et qui avance. Et de showrunner, moi je suis passé réalisateur, donc c'est moi qui dirige les comédiens, etc. Mais c'est Benjamin, lui, est à la deuxième caméra sur le tournage, et Stéphane est script. Et du coup, on écrit à trois, mais c'est moi qui dirige l'écriture, mais on écrit tout à trois. Puis sur le tournage, c'est moi qui réalise, mais ils sont là aussi. Donc moi, c'est un grand luxe d'avoir ces co-scénaristes.
À la limite, c'est un peu comme des tournages américains où les scénaristes assistent au tournage et on réécrit en fonction d'eux.
Mais c'est surtout des questions pratiques qui se posent, parce qu'on est tout le temps confronté au réel, et le réel peut s'insérer. Et du coup, quand j'ai une question de dire, ah, mais tiens, est-ce qu'on tournerait pas ça ou ça, je peux me retourner et avoir mes deux scénaristes derrière moi, ce qui est évidemment un grand luxe, quoi.
Voilà. Bon, la pression était là, tout le monde vous attendait à la sortie, et c'est ce qui a amené à avoir ce secret sur le tournage
Oui, mais c'est pas tellement ça, c'est plutôt le fait que moi, en tant qu'amateur de séries, je déteste qu'on me spoil, je déteste savoir à l'avance, et du coup c'est plus dans l'intérêt de préserver le plaisir du spectateur. Mm-hmm. C'est de se dire, ah, ben, on va en raconter le moins possible, comme ça la surprise sera intacte. Et on essaye de garder un maximum de secrets, mais qu'on va dévoiler de plus en plus au fur et à mesure que la série avance. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'est en tant que spectateur, j'aime bien ne rien savoir quand je regarde une série.
On a découvert une belle utilisation du drone dans la saison 1. Est-ce que le 2 reprend aussi cette belle vue des Ardennes ?
On a refait des tournages drones, tout à fait. On pensait que ça faisait vraiment partie de l'identité, de l'ADN de la série. Mmh. Et on a refait ça, oui.
Et donc c'est une facilité de redécouvrir les Ardennes ou dès le départ, vous n'aviez pas envie d'aller visiter un autre coin de la Belgique ?
Mais en fait on crée ce village imaginaire qui est Musso, qui a quelques encablures d'Eiderfeld, mais c'est un village qui n'existe pas, donc on mm-hmm. le crée avec plusieurs endroits en Belgique. Et donc mm-hmm. on a tourné en Ardennes, mais on a tourné aussi du côté de Couvain, enfin on a tourné à plusieurs endroits.
Alors bon, vous en avez déjà tué quelques-uns quand même, ouais. de vos acteurs dans la série. Est-ce qu'on va aussi chercher quelques mourants ou c'est un peu plus soft cette fois-ci ?
Il y a malheureusement des gens qui continuent à mourir, hein, parce que c'est le genre qui veut ça. Mais non, on a... je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais on a dû remplacer... Fatalement, comme il y en a qui sont morts, il y a des nouveaux comédiens qui débarquent.
Et alors, bon, vous avez quand même retrouvé aussi une Docteur Orban. Et est-ce que c'était aussi, dès le départ, ce duo avec Johan et Yasmina qui avait bien fonctionné, que vous comptiez réutiliser ?
Mais très rapidement, en fait, c'est dans cette paire qu'on se disait qu'il y avait matière à raconter la suite. Donc le pitch de la saison, c'est que la psychiatre qui a sauvé Johan sur la saison 1, il l'a accompagné. Elle suit un nouveau patient et ce nouveau patient.
Danny Bastin, interprété par Aurélien Caïman. Voilà.
Exactement. Mais, c'est tout à fait ça. Et ce personnage sort de prison et est accusé d'un nouveau meurtre. Et la psy est persuadée qu'il n'a pas commis ce meurtre. Mais pour l'innocenter, elle doit aller chercher la seule personne qui puisse l'aider, Johan. Et nous, on voyait une suite, on savait que la suite serait là-dedans, que c'était la bonne entrée pour la saison 2. Et du coup, oui, c'était une relation et une relation entre ces deux personnages qu'on avait beaucoup aimé sur la saison 1 et qu'on avait envie d'approfondir, on avait envie de raconter plus de choses sur cette psy, sur eux deux et sur les relations potentielles.
Il y avait des éléments quand même assez forts, semble-t-il, je vais pas dire parler de recettes, mais les secrets, les conflits entre policiers, les preuves qui disparaissent, etc.
Je coupe une seconde.
Et donc, ces éléments qui avaient quand même fait le succès, est-ce que, vous semble-t-il, vous les réutilisez ? Donc, ces conflits de commissariat, ces preuves qui disparaissent, c'est également le cas dans Trêve ?
Oui, en fait, bon, l'histoire est très différente, mais l'ADN et l'univers, ça, on essaie de le respecter, c'est parce que c'est ça qu'on avait créé, qu'on aimait bien, et donc, sans dévoiler les intrigues, l'univers reste le même, on retourne au même endroit. Je pense que c'est cet endroit que les gens, le public a beaucoup aimé et nous aussi en premier lieu. Et du coup, on avait tous envie d'y retourner.
Alors, après avoir investi pendant, ça servait maintenant quoi, 4 ans que vous êtes avec la Trêve, ça doit quand même être assez effrayant de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir après.
Mais là on est non on est bien sûr fatigué, c'est une expérience très prenante, c'est un boulot gigantesque de faire une série et du coup c'est vraiment matin, midi, soir et tous les jours. Et donc là on va prendre de toute manière l'idée potentielle pour la saison 3, il faut laisser passer un peu de temps et donc de toute manière on va laisser passer un peu d'eau couler sur les ponts. Moi j'ai des projets de films, j'ai des projets de séries, j'ai beaucoup de projets, il faut voir lequel lequel j'ai envie de l'acheter en train d'écrire, mais je ne sais pas encore pourquoi.
Mathieu Dont, un grand merci et on croise les doigts.
Merci à vous.